j'arrivais au bord de cet immense trou, j'ai senti dérouler devant moi, en quelques fractions de seconde, l'histoire de l'humanité.
Mais pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce qui est écrit là? Qu'est-ce qui est écrit?
Défense,
danger. Danger, danger, c'est ça qui est écrit, mes enfants. C'est dangereux aussi, regardez, il y a des trous là. Là, allez, levez-vous, rentrez chez vous. Vous n'avez pas le droit d'être là. C'est dangereux.
Il y a des trous, mais on va prendre des risques ce soir dans le rendez-vous. En direct sur France Culture, il sera question de photographie, de battle, de génocide, de mariage arrangé et même du prix Nobel. Avec Wim Wenders qui signe le sel de la terre, un documentaire sur l'œuvre et la vie du photographe Sébastien Salgado. Pour une vision politique, humaniste et économique de la photographie en noir et blanc, Benoît Lagan.
L'occasion pour Wim Wenders de mettre en scène la parole d'un photographe et inventer une nouvelle façon de filmer un artiste face à son œuvre et face caméra. Il nous expliquera.
19h30, place nette à Xavier Delaporte pour sa chronique Place de la Toile. Au programme ce soir, Xavier ?
Je vais essayer de parler de cinéma.
On vous a pas entendu.
Je vais essayer de parler de cinéma, Laurent.
Vous avez essayé ?
Je vais essayer.
Très bien. 19h35, action avec Tony Gatliffe qui réalise Géronimo, un film chorégraphié sur l'affrontement entre deux communautés gitanes et turques, Benoît Lagan.
L'occasion pour Tony Gatliffe de démontrer une fois de plus que le point de départ de ses films, c'est toujours la musique. Le cinéaste a d'ailleurs invité la chanteuse Norik qui nous interprétera un titre en direct à la fin de l'émission.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le nouveau journal de la culture de Zoé Sfels.
Marcher sur les mains, avaler des pommes de pin, de noix, des abricots et des pois, et des lames de rasoir, étonne-moi.
Bonsoir Zoé Sfez.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
C'est votre son du jour et c'était mon idée à moi.
Oh, vraiment?
Oui.
Alors on écoutait Étonnez-moi Benoît, chanson de 1968, chantée par Françoise Hardy, composée par Hugues de Courson et écrite par un jeune homme qui, on l'oublie souvent, à l'époque a été aussi parolier, le jeune Patrick Modiano.
Alors le romancier Patrick Modiano a étonné tout le monde ce jeudi en remportant le prix Nobel de littérature.
Et oui, à commencer par son ami et éditeur depuis ses débuts avec Place de l'Étoile en 1968 justement. J'ai nommé Antoine Gallimard.
Je ne pensais pas, et je me suis trompé, que Patrick Modiano puisse avoir le Nobel. Je m'imaginais que le jury Nobel était peut-être sous une certaine influence idéologique, que soit politiquement correct ou l'inverse. Mais il y avait toujours peut-être une réflexion politique, voire idéologique, dans ce choix. Et Patrick vous l'a expliqué. Patrick est avant tout un écrivain attaché à son travail, à son écriture. Et donc, bravo, je dis bravo, je me suis trompé, et bravo au jury Nobel.
Antoine Gallimard qui a convoqué une conférence de presse cet après-midi dans les petits salons de la maison d'édition dans des conditions assez épiques comme on peut l'entendre parce que le son était assez pourri.
Effectivement, alors il faut dire que Patrick Modiano, c'est le 15e auteur français à se voir décerner cette récompense, 6 ans seulement après Le Clésio. Donc il y avait beaucoup de journalistes français mais aussi beaucoup de journalistes étrangers, conditions très compliquées aussi car Antoine Gallimard l'a dit, Patrick Modiano, ce n'est pas un grand amoureux de la prise de parole. À 69 ans, 36 ans après avoir reçu le prix Goncourt pour Rue des boutiques obscures, ce prix Nobel le surprend et il semble avoir du mal à mesurer l'ampleur de cette récompense.
On est habitué à une sorte de solitude. Ben, j'étais un peu... C'était comme si je me dissociais un peu, j'allais comme un double. C'était comme une sorte de dédoublement de quelqu'un qui s'appelait comme moi. Et qui... Ce qui m'intéresse, c'est de savoir, parce que j'ai pas eu le temps de... Je voudrais, parce qu'on est toujours un peu aveugle sur ce qu'on écrit et on peut jamais vraiment être son lecteur et on est un peu... On a une vision un peu confuse des livres qu'on écrit, alors j'ai hâte de voir quelles ont été les raisons pourquoi ils m'ont choisi et pour m'éclairer moi-même sur mes propres livres. D'autant plus que j'ai toujours eu l'impression que j'écrivais le même livre depuis 45 ans, enfin avec des pauses ou des... Enfin, c'était un peu le même livre.
Patrick Modiano dit écrire le même livre depuis 45 ans. En tout cas, c'est l'un des principaux reproches que la critique universitaire, qu'une certaine critique universitaire, lui a fait.
Oui, mais le comité Nobel, heureusement, n'est pas du même avis. Elle a salué, je cite, « l'art de la mémoire » avec lequel Patrick Modiano a évoqué les destinées humaines les plus insaisissables et a dévoilé le monde de l'occupation. Il est vrai qu'il a été l'un des premiers à écrire sur cette période qui fait écho notamment à l'histoire de sa famille, sur lequel il a rassemblé un nombre d'archives et d'informations impressionnants et dans lequel il n'a cessé de puiser. Denis Costa, Asnar est journaliste au Monde. C'est un très très grand lecteur du romancier à qui il a consacré un livre dans la peau de Patrick Modiano. Il considère que le procès que la critique lui a parfois fait, à savoir qu'il se répète, est un faux procès.
Il y a une idée reçue qui est que Patrick Modiano écrit toujours le même livre. Et alors ça, c'est complètement faux. Sa littérature a vraiment évolué. Si on prend son premier livre, La Paix de l'Étoile, en 1968, c'est un livre extraordinaire, baroque, ça part dans tous les sens, il y a un nombre de personnages épouvantables, c'est très drôle, très saignant. Et qu'on compare ça à son dernier livre, par exemple, qui s'appelle Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier, son roman qui est sorti la semaine dernière, ça n'a rien à voir. Son style s'est épuré considérablement. Les premiers mots de son nouveau livre, c'est presque rien. Et bien voilà, Modiano, il mettait vraiment des moyens considérables dans sa jeunesse, dans ses premiers textes. Aujourd'hui, il utilise presque rien, des moyens vraiment minimalistes, mais qui permettent néanmoins de faire naître une émotion fantastique.
Voilà, alors le dernier livre de Patrick Modiano qui vient d'être retiré à 100 000 exemplaires. Antoine Gallimard l'a annoncé tout à l'heure. C'est aussi ça, la beauté du Nobel. Patrick Modiano qui sera bientôt obligé de reprendre la parole puisqu'il ira recevoir son prix en Suède.
Est-ce qu'il y a des réactions de la part de nos deux invités, côté cinéma, Tony Gatliff et Wim Wenders? Wim Wenders, qu'est-ce que ça vous inspire, le prix Nobel à Patrick Modiano?
Incroyable, hein. Je sais pas... J'aurais pas deviné. Hein.
C'est vrai?
Non.
Pour quelle raison?
Il y a toujours des rumeurs, qui est-ce qui peut l'avoir et tout. Et il n'apparaît jamais dans ces listes.
Et il a fini par apparaître dans les deux derniers jours, d'un coup.
Ah,
chez,
oui,
chez les parieurs anglais, on l'a vu monter, mais pas au même point que bien d'autres auteurs qu'on attendait peut-être plus.
Tony Gatliff?
Non, c'est bien, il a écrit un très très beau scénario en tout cas. C'est la Combe Lucien. C'est un très 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 beau scénario.
Ah mais oui,
ah ouais,
c'est
magnifique,
lui.
Ouais. Oui. De lui mal, c'est
ouais,
magnifique.
Exactement.
Je pense que c'est vraiment un très très grand scénario. Bon, et un grand écrivain.
Ah ben bien sûr, c'est pour ça qu'il a eu le prix Nobel.
Bah oui.
pas simplement pour ses scénarios. Je rappelle aussi, je signale plutôt que Patrick Modiano sera à l'honneur sur France Culture pour 10 heures exclusives de radio, samedi prochain, de 14h à minuit ici. Mais non, Xavier Delaporte.
Mais je pensais à quelque chose sur sa parole, parce que ça nous a permis cet après-midi de revoir des vidéos de vieux entretiens de Modiano, et notamment un qu'il a donné quand il avait 22 ans. Il parlait extrêmement bien, extrêmement clairement. Et je me suis demandé comment ça se passait, parce que c'est exactement le trajet inverse.
Parce qu'aujourd'hui, il a du mal à finir ses phrases,
oui,
et même ses mots, quelquefois.
C'est le trajet exactement inverse des gens normaux, qui plutôt, disons, a une parole qui s'aguerrit, etc. Et en fait, je me suis demandé s'il n'était pas complètement court-circuité en fait, par toutes ses idées. Enfin, si c'était pas quelque chose en fait, d'entrechoquement, et qui faisait que sa parole, au final, ne pouvait plus être aussi linéaire, parce qu'elle s'était complètement complexifiée, comme un réseau, comme ses livres sont écrits en réseau. Ah, c'est une hypothèse.
Et pas mal. C'est ce que vous avez écrit dans Rue 89 ?
Ah, pas du tout, c'est une primeur que je vous livre là.
Non,
je ne répète pas les mêmes choses partout.
Ça sera bien. Et tout de suite, on passe au bref.
Et on ouvre avec le prix Médicis qui a dévoilé sa deuxième sélection ce matin. 8 romans français en lice. Eric Reinhardt, présent sur toutes les listes, y figure avec L'amour des forêts. On a aussi Antoine Volodine, Valérie Zenati qui se maintiennent. Aurélien Bélanger lui a été évincé. Du côté de l'étranger, on passe de 15 à 7 romans avec notamment qui se maintiennent. Taïe Celestia avec Le ravissement des innocents et l'italien Antonio Morescu avec La petite prière.
eBay se lance dans les enchères en ligne d'œuvres d'art.
Oui, après un projet avorté en 2009, le site d'enchères en ligne saute le pas en offrant chaque jour sur son site des œuvres proposées par des maisons de vente partenaires, à savoir Swan Auctions Gallery, Doyle New York et Freeman's. Le partenariat avec eBay et Sotheby's qui a été annoncé en juillet n'a toujours pas été lancé. En revanche, les prix d'estimation vont aller entre quelques milliers et plus de 100 000 dollars.
Oliver Stone met aux enchères son scénario sur Edward Snowden.
Le réalisateur américain a acquis les droits de 2 livres sur Edward Snowden. Il veut en faire un film avec Joseph Gordon-Levitt et il a soumis le scénario à toutes les plus grosses majeures américaines qui doivent faire leur proposition de financement d'ici lundi. Pour qu'il choisisse eh bien, la plus offrante, on se doute que les sommes pourront monter très très haut.
Et la dernière, elle n'est pas aux enchères.
Non, c'est l'histoire d'une retrouvaille entre un groupe de rock épique et un scientifique assez diminué qui tous deux croient au pouvoir immense de l'imagination et du progrès. Les Pink Floyd annoncent enfin leur prochain album, The Endless River, dans les bacs le 7 novembre. Et on sait que cet album sera honoré par un invité de marque, l'astrophysicien Stephen Hawking, glorieux choriste. Annonce étrange quand on sait que le scientifique, âgé de 74 ans et paralysé, ne peut plus ni parler, ni a fortiori chanter. Et pourtant si, car en réalité, il a mis mis au point et affiné une technique de synthèse vocale. Il peut produire des sons grâce à un ordinateur qui reconnaît ses mouvements de lèvres et de sourcils. Et le système marche très bien parce qu'en réalité, Pink Floyd et lui ont déjà collaboré une première fois. C'était en 91 sur une chanson qui s'appelait Keep Talking, une chanson où on l'entendait fredonner ses paroles. Pendant des millions d'années, les hommes ont vécu comme des animaux, puis quelque chose s'est produit qui a libéré le pouvoir de notre imagination. Ça se passe de commentaires.
Merci Zoé. On se retrouve demain pour la poursuite de ce journal de la culture. Je vous ai vu prendre des notes. J'adore ça quand les invités prennent des notes, Wim Wenders. C'est en relation avec le journal de la culture, avec les dernières informations?
Oui, c'est tout ça. C'est pour me rappeler.
Oui.
Et en plus, si je fais des notes, je sais de quoi on parle. Si je ne fais pas des notes, je perds mon or.
Vous en prenez tout le temps?
Non. C'est moi aussi.
C'est la primeur de tout le monde ce soir. Tony Gatliff, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous voudriez commenter dans ce qu'on a entendu?
Non.
Eh bien alors, on commence tout de suite.
Le rendez-vous.
Tous les hommes, quand ils commencent à toucher l'or, ne reviennent plus.
Plateau photographique avec vous, Wim Wenders, cinéaste, producteur, scénariste, photographe, figure de proue de ce qu'on a appelé le nouveau cinéma allemand des années 70. Lion d'or pour L'état des choses en 82, Palme d'or à Cannes pour Paris, Texas en 84. Et cette année, trois prix encore à Cannes pour votre dernier film, Le sel de la terre, qui sort en salle mercredi prochain. C'est un documentaire que vous avez co-réalisé avec Giuliano Ribeiro Salgado, le fils de Salgado, dans lequel vous revenez donc sur la vie et sur l'œuvre de son père, le photographe brésilien, qui a débuté comme économiste, on l'apprend dans le documentaire, avant d'opter pour la photo dans les années 70, une photo d'abord politique qui a été témoin des grands événements, des grands génocides, et puis une photo plus humaniste sur les déplacements de population, et en fait aujourd'hui une photo écologique et économique sur le pouvoir de la nature. On écoute la bande-annonce du film.
Un photographe est quelqu'un qui écrit avec la lumière, dessine le monde avec des lumières et des ombres.
Quand j'arrivais au bord de cet immense trou, j'ai senti dérouler devant moi, quelques fractions de seconde, l'histoire de l'humanité, l'histoire des constructions de pyramides, la tour de Babel, les mines du roi Salomon.
Comment aurais-je pu me douter que j'allais découvrir bien plus qu'un photographe? Je savais déjà une chose de ce Sebastião Salgado. Il aimait vraiment les êtres humains. Après tout, les hommes sont le sel de la terre.
Wim Wenders, la rencontre avec Salgado, ça commence par une photographie que vous avez achetée dans une galerie. Est-ce que vous pourriez nous décrire cette photographie et dire ce qui vous a marqué à l'époque?
C'était en 87 ou 8. Et en effet, j'ai acheté deux ce jour-là. J'ai acheté une photo d'un mec qui se repose, un des ouvriers dans ce grand trou, cette mine d'or. Et il est là. Et ça m'a rappelé une peinture hollandaise de Saint-Sébastien. Sauf ce mec n'avait pas les flèches dans son corps. C'était un peu presque une peinture religieuse. Mais en même temps, c'est un bordel complet ce qu'on voit. C'est une scénerie qu'on ne pourrait même pas inventer. Parce que peut-être c'est comme ça que l'humanité a construit les pyramides. Mais que ça se passe en 20e siècle, je trouvais ça inimaginable. Et cette photo, j'ai flashé parce que je me suis dit, c'est bon, ça doit être un grand photographe, je ne connaissais pas encore son nom, mais aussi ça doit être un grand aventurier, quelqu'un qui passe un temps pour faire toute cette série de photos là-dedans, et un sang qu'il a vécu là avec ces gens-là, ça doit être un aventurier. Et puis la deuxième photo, c'était une photo d'une série qu'il a fait avant, au Sahel. Et c'était le portrait d'une femme touareg aveuglée qui, bien qu'elle est aveugle, elle est consciente que le photographe est en train de prendre son portrait. Et elle pose, elle donne son visage Et il y a une grande fierté, une grande dignité dans cette photo. Et c'est à cause de cette photo-là, je crois que, parce que je la vois tous les jours, c'est devant, sur ma table de travail, que j'ai voulu faire ce film.
Tony Gatliff, je crois que vous connaissez aussi le travail du photographe Sébastien Salgado, puisqu'il avait une exposition l'année dernière à la MEP à Paris. Vous vous rappelez d'une photographie particulière qui vous a marqué, ou d'une ambiance peut-être ?
Ben, moi, j'ai fait un demi-kilomètre de queue. Ouais. Je me souviens de ça.
Ah oui ?
Non, mais c'est vrai.
C'était impressionnant.
Et
hein.
Mais j'aimais énormément ce photographe parce qu'il a filmé les peuples, le déplacement des peuples. Et donc aujourd'hui, à notre époque, c'est pas mal déjà, les peuples se déplacent à une vitesse incroyable, mais à pied. Hein. C'est-à-dire, tout d'un coup, regardez tout ce qui se passe avec les Kurdes qui sont en train de venir vers la Turquie. S'il était là, il aurait pu photographier toute cette population qui est en train d'arriver, ou ceux qui sont partis, là, les religieux qui sont partis de Bagdad. Et donc voilà, donc c'est pour moi un photographe très, très, très puissant, parce que, bon, je pense que c'est ce qu'on aurait pu faire si on était au cinéma.
Benoît Lagan.
Alors Wim Wenders, filmer pour un cinéaste, un photographe, ce n'est pas innocent. Vous avez trouvé un dispositif particulier pour le filmer. Vous le filmez de face et votre caméra, en fait, est positionnée derrière une sorte de miroir sans teint, enfin, ce que l'on imagine en tant que spectateur, sur lequel sont projetées ces photos. Et Sébastien Salgado les commente. En fait, entre vous et lui, il y a donc la projection de ces photos. Qu'est-ce que vous attendiez de ce dispositif particulier ? Est-ce que je l'ai bien décrit déjà ?
Et assez complexe d'ailleurs. Hein.
Oui, vous avez bien décrit. C'est en fait un téléprompteur, comme chaque speaker à télé utilise, sauf que là-dedans, là-dessus, il y a les textes. Et Sébastien n'a pas vu ces textes, mais il a raconté ses histoires. Il a seulement vu ces photos. Il était dans une chambre noire. Déjà, c'est une bonne ambiance pour un photographe. Mmh. Et il n'a rien vu que ces photos. La caméra était derrière. Et comme c'est un miroir sans teint, il a donc regardé aussi dans la caméra. Il a parlé, il a communiqué avec le public à travers sa photo. Et j'ai trouvé ça seulement après qu'on avait déjà tourné pendant des semaines d'une manière plutôt conventionnelle, avec deux caméras. On était tous les deux à une table ou devant un mur de photos. Et je me suis rendu compte de plus en plus que quand il me parlait ou parlait à la caméra, c'est devenu un peu... Il y avait une routine. Et quand il était seul avec la photo et quand il était seul dans son passé et dans son mémoire, c'était autre chose. Alors j'ai voulu trouver une méthode de le mettre dans son propre passé et dans toute cette histoire des photos incroyables qu'il a prises. Et donc, on a inventé ce téléprompteur.
Alors, ces photographies, justement, ont renvoyé Salgado à des moments de sa vie et à des lieux difficiles de son travail. Je pense en particulier aux photographies sur le Rwanda. Est-ce qu'il y a eu des moments plus difficiles pour lui à évoquer cela ? Parce que, justement, c'est à cause de ce travail sur les atrocités des hommes qu'il est passé, il y a quelque temps, à un autre travail sur la nature, parce qu'il ne pouvait plus filmer les hommes. Et par exemple, les déplacements de population, aujourd'hui, ça ne pourrait plus être son sujet. Wim Wenders.
Ça ne s'est pas passé d'un jour à l'autre. C'est vrai, il est venu à son bout. Il était à bout de force, il ne pouvait plus. Et il savait qu'il n'était plus capable à continuer comme photographe social. Là, quand il a vu des milliers et des milliers de morts au Rwanda, il a abandonné sa profession de photographe social. Et il n'a pas recommencé à photographier l'année prochaine. Il croyait que c'était la fin de la photographie. Et c'est un peu par un autre chemin qu'il a été guéri et qu'il a pu se réinventer comme photographe. Et c'est la nature. Je sais que c'est un peu bizarre si je le dis si court. C'est la nature qui l'a guéri. Et c'est le fait qu'il a hérité le terrain de son père, qui était un paradis quand Sébastien était un gosse, et qui maintenant était un désert, et qu'il avait le besoin de planter un peu des arbres autour de la maison pour commémorer son père. Et il a vu ce que ça faisait, que ces arbres commençaient à pousser et qu'en dessous de ces arbres, les sources revenaient. Alors il s'est dit, si ça marche avec quelques centaines, qu'est-ce que ça donne avec des millions ? Et il l'a fait. C'était le premier homme à replanter la forêt tropicale.
Alors quand un cinéaste filme un photographe, on voit bien qu'il y a un jeu d'écho, d'autant plus que vous-même, vous avez été photographe Wim Wenders. Et je me demandais par exemple si vous aviez échangé sur un plan politique, parce que pendant très longtemps, il y a eu un engagement de la part de Salgado. Il a dû fuir la dictature du Brésil dans les années 70. Vous, justement, je me demandais à cette époque, en 68, quel était votre parcours politique ?
J'étais comme lui, dans la gauche des étudiants. J'étais deux fois emprisonné.
Parce que vous étiez... Oui.
J'étais militant, un peu comme lui, sauf qu'il était à Sao Paulo, moi j'étais à Munich. Et c'est un peu le même parcours à l'époque.
Vous étiez proche aussi de certains, enfin, d'une jeunesse d'extrême gauche. Certains étaient proches même de la bande Abadère.
Oui.
Vous ?
Presque tous étaient morts quelques années plus tard.
Jusqu'à quel point vous les avez suivis, Wim Wenders ?
Jusqu'au moment où on vivait dans une commune. Jusqu'au moment où il y en avait qui décidaient de choisir la violence. Et jusqu'à ce qu'on avait, c'était des copains, mais à un moment donné, ils ont commencé à discuter des bombes. Et c'est là que je me suis cassé.
Alors aujourd'hui, vous filmez Sebastião Salgado, mais celui qui vous a très tôt influencé, c'est le photographe américain Walker Evans, au point même d'avoir en tête ses photographies quand vous avez tourné en 1975 votre film Au fil du temps. Qu'est-ce qui vous a fasciné chez Walker Evans, Wim Wenders ?
Une certaine esthétique, noir et blanc, une certaine distance. C'était quelqu'un qui ne voulait pas qu'on le reconnaisse lui dans ses photos. C'était une photo commandée. Pour être témoin de ce que se passait dans la Grande Dépression début des années 30, surtout dans le sud des États-Unis. Elle a fait des milliers de photos. Et c'était des photos qui donnaient vraiment une image de ce temps-là, une image d'Amérique qui était tout à fait différente du rêve américain, qui était très réaliste et très dur. Et en même temps, il y avait un esthétisme qui... avec laquelle je me sens très, très, très proche. Voilà, c'était le premier photographe que je connaissais et que j'ai étudié.
Alors, le style de Salgado, c'est autre chose, parce que c'est immédiatement repérable. Ça passe par un noir et blanc très particulier. Est-ce que vous avez parlé avec lui des échanges techniques sur ce noir et blanc? Vous, on se souvient du noir et blanc, par exemple, des Ailes du désir, qui avait été travaillé par Henri Alcan, celui qui avait travaillé la lumière des films des années 40, par exemple aussi, La Belle et la Bête. Donc, est-ce que vous avez échangé sur la qualité de son noir et blanc?
Je l'ai observé, comment il travaille avec son étalonneur. Ouais. Et je trouvais ça extraordinaire que quelqu'un, maintenant, travaille avec des moyens numériques. Il fait son premier choix des photos. Il revient donc avec des mille et des mille photos d'un voyage. Et la première chose qu'il fait, toutes les photos qu'il aime, il les met sur négatif. C'est-à-dire, il prend le chemin contraire du reste des photographes que je connais. Il fait des négatifs et à partir de ces négatifs, il fait ses tirages. Et il est... Bon, c'est quelqu'un qui est né, qui a commencé comme photographe dans les années 70, au début, avec une Leica, seulement dans le noir et blanc. Il fait des grands voyages où il avait dans son sac à dos seulement des rouleaux de film et une caméra. C'est tout ce qu'il avait quand il a traversé toute l'Amérique du Sud. Et il a gardé cette physicalité de son travail. Et il croit toujours au négatif. Bon, mais il ne voyage plus avec les caméras, avec la pellicule, parce que, bon, moi, je suis le dernier qui fait ça. Mais maintenant, il travaille avec du numérique, mais la première chose qu'il fait quand il aime une image, il la met sur négatif. Et ça, je trouvais quand même vachement bien.
Vous-même, vous avez été photographe. Dans les années 80, d'ailleurs, vous êtes passé du côté de la couleur. Quelles étaient les premières photographies que vous aviez signées? Quels étaient les sujets que vous photographiez, Wim Wenders, avant d'être cinéaste?
Bon, j'ai commencé à photographier quand j'étais gosse. J'ai toujours photographié, mais je n'ai pas pris au sérieux. C'était partie de ma vie. C'était la chose la plus naturelle. J'avais une chambre noire quand j'avais 12 ans. Et j'ai photographié toute la vie, quoi. C'est seulement beaucoup plus tard, dans les années 80, que je me suis pris plus au sérieux comme photographe. Et là, je suis devenu plutôt un photographe des lieux. Pas de la nature tellement, mais je photographie des maisons et des rues et des villes et des déserts. Je photographie des lieux parce que ça m'intéresse ce que nous, ce que l'humanité a laissé comme trace là-dedans. Et je fais des photos, pas des gens, mais des traces qu'ils ont laissées.
Tony Gatliff, vous êtes cinéaste. Est-ce que vous êtes aussi photographe par ailleurs?
Non. Non, pas du tout, vraiment pas. Mais par contre, je dessine. Je dessine quand je suis en tournage, je dessine des... Pas des plans, hein. Je dessine de ce que les autres ne comprennent pas ce que je veux dire.
C'est-à-dire, par exemple, votre dernier dessin, c'est quoi?
Tu sais, un film, on passe son temps à expliquer des choses que les gens ne comprennent pas.
Ça, je peux m'imaginer.
Même avec un scénario, on dit, ah, c'est écrit. Mais ils ne savent pas. Et donc, moi, j'adore leur expliquer avec... Écoute, il s'est passé un truc incroyable, c'est qu'il y a un moment, on devait faire un chant contre chant, et c'est la magie du cinéma. C'était dans un chant, et puis après, contre chant.
Oui.
Donc, je voulais faire le chant contre chant dans le même chant.
Ah, c'est vrai qu'il va falloir un dessin. Là.
Ah, oui, mais voilà. C'était que c'est la même fenêtre. Il y avait une fenêtre là, et je voulais faire une autre porte de l'autre côté qui était à côté de la fenêtre. Et donc, j'ai fait les deux. Et donc, c'était impossible pour l'équipe de 30 personnes de comprendre ce que c'est. Et je leur disais, mais c'est pas vrai, ça. Bon, j'ai pris une craie, je dessine bien. J'ai pris une craie sur le mur, j'ai fait, alors, attendez. Donc, ça, c'est le champ, tac, tac, on coupe, OK? On coupe là. Je me retourne de l'autre côté, et je fais le contre-champ. D'accord, vous avez compris ou pas? Je vous assure qu'ils ne comprenaient pas. Parce que c'était embrouillé.
Mais voilà. Le dessin a tout ouvert.
Ouais, non, bon, en tout cas, moi, j'ai dessiné pour moi.
Vous avez l'impression qu'on ne vous comprend pas quand vous filmez Wim Wenders?
J'ai vécu ça d'une manière assez dramatique sur un tournage où j'étais présent. C'était Michelangelo Antonioni qui avait perdu sa voix. Et, stroke, c'est quoi en français? Il avait souffert d'une attaque. Alors, et je lui ai aidé à faire un film. Donc, un metteur en scène qui ne parle pas. Donc, tous dans... Il a fait beaucoup de dessins. Il a fait beaucoup de dessins. Mais puis, toujours, on était là-dessus. On a essayé de deviner qu'est-ce que ça veut dire maintenant. Où est-ce qu'on met la caméra si... Et on a regardé les lieux. Et puis, il nous a montré avec des gestes et tout. Il a sorti tout ce film de sa tête strictement avec des gestes et des dessins. Et quelquefois, ça a pris des heures jusqu'à ce qu'on a compris. Et il était désespéré et puis il a commencé à rigoler parce qu'il ne croyait pas comment on était bête. Pour lui, c'était évident le plan qu'il fallait faire. Et nous, on n'a pas compris. Et c'est surtout les dessins qui ont aidé.
Wim Wenders, comme à tous nos invités depuis le début de la rentrée, on a demandé d'apporter un son. Et voici ce que vous avez choisi. Identification de ce son.
On ne peut pas laisser ça pendant quelques minutes.
Oui. Allez-y, c'est ça, c'est ça. Pendant ce temps-là, Wim Wenders, identification de ce son. Il est toujours derrière nous.
Le ruissement du vent dans les feuilles des arbres. Et chaque arbre a un autre son, c'est ça. Et avec chaque vitesse du vent, ça change. Et il n'y a rien de plus calmant, il n'y a rien de plus guérissant que ce bruit-là.
Le rendez-vous, la chronique.
On vous retrouve dans quelques instants, Wim Wenders et Tony Gatliff, mais tout de suite, c'est la chronique Place de l'Étoile.
Place de l'Étoile, c'est parce que vous pensez à Modiano.
Modiano,
c'est
exactement,
beau,
voilà,
quelle référence.
Place de la Toile de Xavier Delaporte.
Vous êtes trop fort. Il y a quelques jours, on en a parlé sur E89, je le dis, puisque voilà, vous allez me faire la remarque. Steven Soderbergh, bien connu réalisateur notamment de Sexe, Mensonges et Vidéo, Trafic ou Erin Brockovich, a fait une chose assez étonnante. Il a mis sur son site une version de Indiana Jones, je crois que c'est le premier, mais en noir et blanc, et sans dialogue. Alors, sans grande considération pour le copyright et le droit moral, il s'est donc permis de mettre en ligne sur son site, où par ailleurs, il vend des t-shirts et autres babioles, parce qu'il n'y a jamais de petit profit, même pour Soderbergh. Donc il a mis l'œuvre d'un autre, et il s'est permis de la détourner, de la dénaturer, en lui enlevant couleur et parole. Alors, ce qui est intéressant, ce sont les raisons avancées par Soderbergh. Dans son esprit, c'est un hommage à ce film et à son réalisateur, parce qu'il explique, quand on regarde ce film sans les couleurs et sans les dialogues, on prend une leçon de cinéma. On s'aperçoit à quel point Spielberg est un génie du cadre, à quel point son montage est parfait, à quel point il a le sens du rythme, etc. Alors, bon, j'ai un peu regardé. Je dois dire que partant de très bas niveau cadrage et montage, à peu près tout me donnerait une leçon de cinéma. Donc, je suis assez mauvais juge en la matière, mais je veux bien croire Soderbergh. Ce que je peux juste dire, c'est que, en effet, c'est une expérience que de regarder Indiana Jones avec une musique planante à la place des dialogues et en noir et blanc. Et c'est fou, comme il suffit de peu d'ailleurs pour qu'un blockbuster devienne un film expérimental. D'où une réflexion que je me suis faite et dont je vous fais cadeau, peut-être elle vous servira un jour l'un et l'autre.
Allez-y, professeur Xavier Delaporte.
C'est ironique. Hein.
Oui, non, mais j'ai bien compris. Mais l'ironie passe très mal, vous savez.
Voilà, je sais, c'est pour ça que je précise. On ne dit jamais assez que le plus souvent, le fait d'ôter quelque chose à un objet, le son d'un film, ou alors sa fin, ou alors rayer des mots de certains livres, ou alors au contraire, ajouter quelque chose à un objet, comme une moustache à la Joconde par exemple, crée une expérience suffisante pour fabriquer de l'art. D'où on pourrait conclure que faire de l'art, c'est pas forcément créer, mais c'est ôter ou rajouter. C'est pas super hein, comme théorie.
Ah, si, 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 c'est pas mal. Bon,
enfin, bref, c'est donc moins la leçon de cinéma en elle-même que le procédé consistant à en faire part qui m'a intéressé. Et je me suis dit que c'était intéressant de voir justement ce qui intéressait Soderbergh, quelle expérience il faisait tout seul dans son coin, comment il trafiquait un film pour en faire ressortir quelque chose d'autre. De la même manière, j'avais beaucoup aimé ce que Rick Rochant avait fait sur Twitter pendant qu'il tournait son dernier film, Moebius. Pendant toute la préparation du film et pendant tout le tournage, Rochant tweetait ce qui se passait, ce qui lui arrivait, ce qui arrivait à son équipe. Alors, c'était pas une dizaine de tweets par jour, hein, c'était quelques-uns, parfois une série qui tombait souvent le soir quand. Le tournage était fini. Et je me souviens d'un, par exemple, qui disait que la journée, ou d'une série, qui disait que la journée avait été dure, qu'il avait plu alors que la scène devait être ensoleillée, que toute l'équipe avait attendu et que si le lendemain il pleuvait encore, il faudrait trouver autre chose. Alors que Rochand donc, il racontait qu'il devait écrire une scène dans la nuit de remplacement, etc. C'est rien peut-être et c'est follement banal sans doute pour quelqu'un, pour des gens comme vous qui connaissez le cinéma. Mais ces notes de tournage transmises, élus en direct, et qui n'auraient certainement pas été les mêmes si elles avaient été compilées de manière rétrospective après le tournage et si elles avaient été publiées dans un journal au quotidien, parce qu'elles auraient été relues, éditées, et bien ces notes, elles m'ont souvent intéressé et même ému. Et je ne suis pas du tout allé voir le film d'ailleurs, mais j'en ai gardé un bon souvenir, et un bon souvenir du tournage. Surtout, j'en garde un souvenir de quelque chose en train de se faire. Et c'est là où le numérique, Internet et les réseaux permettent une chose extraordinaire, ils permettent de montrer qu'une œuvre aurait pu être autre chose qu'elle n'est. Ils permettent de montrer que la forme définitive d'une œuvre, c'est une affaire complexe où se mêlent des intentions, évidemment, mais aussi des contraintes de toutes sortes et parfois même des contingences complètement accidentelles, très bêtes. Ça paraît une évidence pour tout créateur et pour toute personne qui est spécialiste de la création, mais pour nous, le public, ça ne l'est pas toujours. Et on a toujours tendance à accueillir comme un objet, l'objet comme s'il n'avait pas pu avoir d'autres formes. Comprendre que ce n'est pas le cas, c'est commencer à faire de la critique. Et donner les moyens à tous de comprendre que ce n'est pas le cas, c'est donner à tous les moyens de faire de la critique. Et donc, je pense qu'il faut regarder comme ça tout ce qu'Internet et les réseaux sociaux font subir au film, comme une sorte d'éducation populaire à la critique. C'est-à-dire tous ces mash-up qu'on trouve sur les réseaux, tous ces montages et remontages de films connus d'ailleurs qu'on trouve sur YouTube, tous ces petits films que les gens fabriquent où ils superposent par exemple les images de Pocahontas et le son d'Avatar, où on choisit des images qui transforment Shining en comédie romantique, etc. Toutes ces images qui sont fabriquées souvent par des amateurs et qui sont offertes à tous, et ben tout ça c'est de la critique, c'est une forme de démonstration. Et on a souvent interprété la démocratisation des outils de travail de l'image, c'est-à-dire les caméras, les logiciels de montage, etc., comme l'occasion donnée à tous d'être cinéastes, et donc tout le monde derrière se met à flipper, mais c'est pas du tout ça. En fait, c'est plutôt l'occasion donnée à tous de devenir critique et de faire ce que devraient faire les vrais critiques, c'est-à-dire montrer comment l'œuvre est faite et comment elle pourrait être faite différemment. Donc peut-être sommes-nous en train de tous devenir des critiques, et ce serait d'ailleurs ce qui expliquerait que plus personne ne suive les conseils des critiques et surtout des critiques de cinéma.
C'est bien ce qui est en train de se passer. Est-ce qu'on a retravaillé comme ça sur Internet vos propres films, Wim Wenders ou Tony Gatliff? Vous avez déjà vu des...
J'ai rien compris ce que t'as dit.
Alors,
on va pas la reprendre.
Je vais la refaire.
On va pas la refaire.
Ce qu'il a dit, j'ai rien compris.
On va pas la refaire parce qu'on ne va surtout pas avoir le temps.
On a fait un remake d'un film de moi, Les ailes du désir. C'était un remake. Et ça, c'était un peu comme ça. Tout d'un coup, c'était en couleur avec des dialogues qu'on aurait aussi bien pu enlever. C'est une bonne idée d'enlever le son et changer les couleurs et tout ça. Je connais plein de films avec lesquels il vaut mieux le faire, quoi. Et devenir critique et le faire.
Il y a un film qui me plaît énormément, c'est un film de Satyajit Ray qui s'appelle L'enfance d'Abou. J'étais jeune étudiant, jeune cinéaste, je faisais des courts-métrages. Je vois ce film et à un moment, il y a une scène de drame incroyable. La femme du personnage principal, voit sa fille morte. Et elle crie tellement fort que le cinéaste a enlevé le son. C'est magnifiquement fort. C'est extraordinaire ce que c'est fort. Voilà, donc ça, c'est pareil, c'est un travail. Là,
vous avez tout compris.
Vous avez tout compris. Non, mais vous avez résumé en deux secondes une chronique de 5 minutes. C'est
avec
parfait.
Avec Rocha et tout, j'ai rien compris ce qu'il a dit.
Le rendez-vous.
S'il touche à mon frère, on les massacre tous.
Plateau Battle avec vous, Tony Gatliffe, producteur, cinéaste depuis le début des années 70, plutôt le milieu des années 70, pris un certain regard à Cannes en 93 pour Latchodrome. Vous signez Géronimo, ça sortira aussi en salle mercredi prochain. L'histoire en deux mots, dans un quartier d'une ville du sud de la France, suite à un mariage forcé, eh bien une jeune femme turque fuit pour retrouver son amant, un jeune gitan. Les rivalités entre les communautés se tendent sous le regard d'une bande formidable de jeunes adolescents délinquants, détention qu'une jeune éducatrice surnommée Géronimo, interprétée par Céline Salette, va tenter d'apaiser. Bande-annonce.
Géronimo, il y a l'éducatrice. Tu veux te battre? Ne parle pas comme ça, Elsa.
Vas-y, va te faire foutre.
S'il touche à mon frère, on les massacre tous.
J'ai vu Paco Molina, le père de Lucky. Il veut régler ça à l'amiable, avec de l'argent.
Il est où, mon frère?
T'as perdu ton frère?
Tu te fous de ma gueule, là? M'énerve pas. Sauf que je t'étrangle.
D'accord, mais serre pas trop fort.
Première question. Comment ce nom de Géronimo, qui est celui d'un guerrier apache dans le Mexique du 19e siècle, s'est imposé pour le personnage de l'éducatrice, Tony Gatliffe?
D'abord, il s'est imposé sur moi, parce que j'écrivais le scénario. Et je me mettais moi comme rôle principal, parce que j'écris toujours les histoires des gens, les histoires des hommes, en me mettant moi en premier. Et là, donc j'écrivais le scénario de ce personnage, qui est un éducateur que je connaissais, parce que je me suis inspiré de beaucoup de mes histoires personnelles, un peu partout.
Vous l'aviez connu en maison de correction à 15 ans, hein, votre arrivée en France dans les années 60.
Ouais, c'est ça, c'est un éducateur superbe. C'est un éducateur, je pense qu'il m'a sauvé, parce que s'il m'avait laissé là où j'étais, je pense que j'aurais été un très grand bandit. Vu comment je fais les films aujourd'hui, je suis sûr. Et donc voilà, donc j'ai écrit ce Géronimo. Et à un moment, je termine le scénario, je le donne aux investisseurs, à Canal+, à tout le monde, quoi, à la Sofica, pour avoir l'argent. Et franchement, j'ai eu l'argent tout de suite pour le faire. Et puis, je n'ai plus eu envie de le faire.
Vraiment. Vous êtes vraiment un bandit, alors?
Non, pas du tout. Maintenant, je suis honnête. Et donc, j'avais plus envie de le faire parce que je le sentais plus. Je comprenais pas pourquoi je n'avais pas plus envie de faire du cinéma. Je pensais que le goût était parti. Et donc, je suis resté pendant 6 mois avec le scénario-là, l'argent-là, et j'arrivais pas à me dire, allez, il faut y aller. Et donc, à un moment, je reprends le casting. Je pensais, parce qu'il n'y avait pas de rôle féminin dans le film, et donc j'ai intégré un rôle féminin, c'est la femme de l'éducateur, ce Géronimo. Et moi, j'aime beaucoup les femmes, j'aime beaucoup filmer les femmes. Et donc, je reçois Céline Salette, qui était une actrice que je connaissais pas beaucoup, quoi. C'est une jeune actrice. Elle était assise à... Parce que j'ai une petite table dans mon bureau qui fait presque un mètre, même pas un mètre. Et c'est exprès pour recevoir les acteurs. Je les vois en très gros plan. Donc je suis là, eux ils sont là, et je les vois en très gros plan. Et c'est très intéressant de faire ça. Et donc je la vois comme ça, elle parle. Moi je lui parle du rôle que j'allais faire. Et puis tout d'un coup je réalise que mon film était là, mais vraiment était là. Non, pas l'actrice, mon film entier. Je me suis dit, mais c'est elle. Je lui disais pas elle, hein. Mais c'est elle. Mais c'est mon personnage, mais c'est une femme. Mais c'est elle qui va jouer, parce qu'elle est magnifique. Et donc, en sortant du rendez-vous avec elle, j'avais tout mon film, encore mieux qu'avant, parce que j'avais le rôle principal d'une jeune femme féminine qui s'appelle Géronimo. Et j'allais faire un autre film que celui que j'étais en train de faire.
Vous comprenez cela, Wim Wenders? Le coup de la table à un mètre et tout?
Je comprends rien, là. Non, mais le casting a une proximité comme ça, je vais tout de suite appliquer ça. Ça, c'est une très, très belle idée.
Avoir le gros plan dès le casting.
Et d'ailleurs, vous dites que c'est vraiment du coup ça qui a mis en place l'architecture du film. Vous avez axé tout sur le regard de Céline Sallette. Comment ça se traduit ensuite dans votre mise en scène?
Mais parce que le film est nouveau, hein,
non,
au niveau
d'écriture. Non, parce que j'avais envie de filmer Tony quelqu'un. J'avais pas envie de filmer avant. J'avais le scénario, mais j'avais rien à filmer. J'avais l'histoire, mais on commence pas à filmer un film avec une histoire parce qu'on a l'histoire. Il nous faut quelque chose, un détonateur. On ne filme pas comme ça parce qu'il faut y aller. Et donc, à elle, j'avais vraiment envie de filmer son visage. C'est-à-dire que j'avais envie de la voir se jeter dans la fournaise du début du film avec les gamins, les aider pour qu'ils ne fassent pas de conneries. Elle bougeait fantastiquement bien. Donc, c'est quelque chose de presque du domaine de l'érotisme, presque.
Alors justement, vous avez lancé Céline Sallette au milieu d'une bande de gamins, tous des acteurs non professionnels. Et quand ils ont de l'expérience, d'ailleurs, vous dites au niveau des acteurs que vous faites tout pour leur casser leurs réflexes. Ouais. C'est-à-dire, par exemple,
mais parce que je déteste, j'aime bien les films avec des vrais acteurs, mais je déteste chez moi, dans mes films, des acteurs avec des tics ou des acteurs qui apprennent le texte qui vient le lendemain pour jouer. Je trouve que ça casse la spontanéité. Il n'y a pas mieux que la spontanéité dans les films. C'est magnifique, la spontanéité. Un acteur ou un jeune acteur qui n'a jamais rien fait, c'est souvent, je prends des acteurs qui n'ont jamais rien fait, et donc quand je les dirige, ils n'ont pas le scénario. D'abord, je ne donne pas le scénario, je donne la veille la scène à apprendre. Et quand je les dirige, j'adore sortir la spontanéité, et il y a un moment, elle arrive parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas comment jouer. Donc, et je leur dis, fais comme quand on s'est rencontrés, tu m'as parlé de ton histoire, tu te rappelles cette histoire que tu m'as parlé. Eh bien, creuse dans cette histoire et fais comme ça. Fais comme, inspire-toi de cette histoire. Et donc, il le fait, et des fois, c'est vachement bien. C'est vraiment bien. Et tous, ils ont fait ça.
Film Wenders, c'est comme ça que vous travaillez avec vos acteurs?
Non, mais une fois, ça m'est arrivé que dans un casting, il y avait une jeune femme qui s'est présentée. Elle n'était pas bien pour le film pour lequel je cherchais des acteurs, mais elle m'a tellement ébloui que j'ai repoussé l'autre film et que j'ai fait un film avec elle. Que j'ai écrit pour elle, c'était Michelle Williams dans Land of Plenty. Deux semaines plus tard, on a tourné, justement pour garder cette spontanéité de cette décision. C'est ce visage-là qui m'intéresse et je vais écrire un scénario pour elle.
Super. Benoît Lagatlif, ce que vous dites sur l'acteur n'est pas anodin. Vous avez commencé comme acteur, avec le soutien notamment de Michel Simon, que vous avez rencontré dans la rue à la sortie d'un théâtre.
Ouais.
Vous l'avez interpellé en lui disant « Je veux faire l'Indien ».
Non, j'étais voir une pièce de théâtre avec lui. C'était en 1966, Boulevard des Italiens, Théâtre Gramont. Et jouait le vent dans les branches de Sassafras, une pièce pas terrible, hein, où il y avait des Indiens.
De René de Obadia. Assez drôle, en fait.
Assez drôle, ouais.
Bizarre.
Maintenant, je ne la toucherai pas, mais... Et lui, il jouait un cow-boy entouré par les Indiens, où il devait tirer sur les Indiens. Et je suis allé le voir, franchement, parce que je sortais de la maison de correction. Je pensais vraiment que c'était du cinéma. Il y avait des photos devant le théâtre, des photos comme au cinéma. Donc j'avais un balcon et je demandais une place au balcon. Et donc je vais au balcon et je n'ai jamais vu de théâtre de ma vie. Parce que pour moi, le théâtre, c'était comme l'opéra. Et donc ce n'était pas du tout notre univers. Et donc il y a un moment, donc j'étais comme ça, sur le poulailler en haut, et je vois la boîte, une petite boîte qui s'ouvre avec la lumière artificielle magnifique, avec des cactus, un saloon, et si Michel Simon qui pousse la porte qui s'ouvre comme ça, comme dans les saloons, et qui rentre avec son chapeau quand il était vieux, hein, et part comme ça, et il sort son revolver, il se met à tirer partout sur les Indiens qui l'encerclaient la pièce de théâtre, la scène, et comme ça, et je voyais les Indiens, j'hallucinais, il y a des Indiens, donc c'était génial. Et donc, j'ai pris mon pied avec cette pièce de théâtre je m'en foutais de ce qui se passait, mais je voyais les chevaux, je voyais les Indiens qui passaient à travers la fenêtre, et lui qui tirait comme ça, et il crachait à un moment par terre, et sa femme lui disait mais arrête, tu vas encore faire cracher une dent, et donc ça, j'ai beaucoup aimé ça. À la fin, je vais le voir, la pièce se termine, je vais le voir, et je vois que des acteurs avec lui, que des très, très, très grands acteurs dans sa loge. Comme par exemple Bernard Noël, Jean Tessier. C'est des monuments d'acteurs que je voyais à la télé, moi. Et donc, je vais le voir. J'attends comme ça, assis sur la seule chaise qu'il y avait. Et puis tous les vieux, c'est des très grands vieux, des vieux qui étaient là. Et lui qui était là en train de parler avec eux, comme ça, machin. Et puis moi j'étais assis, j'attendais, je les regardais, je rêvais devant M. Simon. Et à la fin, ils s'en vont tous, ils me disent « Qu'est-ce que tu veux, toi ?» Et je lui dis « Je veux faire l'Indien. » Comme ça, hein, je te jure, comme ça. Il me dit « L'Indien ? Pourquoi l'Indien ?» Je lui dis « Oui, parce que j'ai vu là ce que vous avez fait dans la pièce, le théâtre là. Et donc, j'ai vu les Indiens, mais moi, je suis mieux. Je t'assure que j'ai dit la vérité. J'ai dit, ils ne sont pas des vrais Indiens. Et c'est vrai que c'est...
Et aujourd'hui, vous tournez Geronimo. Comme ouais, quoi, véritablement, l'histoire
est... Enfin, voilà. Et Simon, je lui ai dit juste une chose, c'est que j'avais envie de jouer au cinéma, et je voudrais faire des Indiens ou des cow-boys et tout ça. Et il m'a regardé comme ça. Il devait me trouver de cinglé ou un mec osé, quoi. Et il m'a dit, mais bien sûr que tu peux. Il m'a dit, bien sûr. Et il m'a écrit une lettre fantastique pour son agent, qui m'a envoyé. Puis je suis allé voir son agent. Son agent m'a dit, oui, il faut aller dans une école de théâtre maintenant. Voilà, c'est parti comme ça.
Et vous êtes allé dans une école de théâtre. Et ensuite, vous avez même joué sous la direction de Claude Régis, ouais, avec Gérard Depardieu. Mais ça, c'est une autre histoire.
Le rendez-vous, la session.
Et on va se quitter en musique, et d'ailleurs vous allez nous présenter votre invité, car c'est notre invité, mais c'est aussi votre invité, Tony Gatliff.
Oui, c'est Noïc, qui est une chanteuse, j'adore sa voix, et sa voix est presque dans tous mes films, dans les musiques de mes films, pardon. Et donc voilà, elle va chanter une chanson tzigane qui s'appelle Chavoro.
Elle est accompagnée par Mathias Lévy au violon, c'est à vous.
Mangia turbu
Accompagné au violon par Mathias Lévy. Pour information, sachez que Yonela, son dernier album est disponible sous le label L'Autre Distribution et qu'elle sera en concert le 4 décembre prochain sur la scène du Sentier des Halles à Paris.
Je dessine de ce que les autres ne comprennent pas ce que je veux dire.
Et en plus, si je fais des notes, je sais de quoi on parle. Si je ne fais pas des notes, je perds mon or.
Merci à nos invités. Wim Wenders, Le sel de la terre sortira en salle mercredi prochain. Et je signale que l'album de photographie Genesis de Sabatio Salgado a paru chez Tachène. Tony Gatliff, Geronimo sortira en salle aussi mercredi prochain. Et la bande originale est disponible sous le label Frémo et Associés et Prince Productions. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain.
La musique
demain, ciné, télé, théâtre et karaoké avec Oratika et Dieudonné Nyanguna. Des annonces, Adrien ?
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Benoît Lagan, Adrien Nazelli et Hippolyte Babilotte. Journal de la culture, Zoé Sfez, chronique Xavier Delaporte, à la technique, Lucas Vaillant et Clément Berman. À la réalisation, Thomas Beau. Vous pouvez réécouter, télécharger, podcaster, commenter cette émission sur le site franceculture.fr et rejoindre la grande famille du rendez-vous sur les réseaux sociaux avec le hashtag RDV.
Il est 19h55, vous écoutez France Culture, c'est bien. Et tout de suite, avec un peu de retard, on s'en excuse, je vous laisse avec Denis Podalydès de la Comédie-Française.